Oui, nous sommes de retour. Il est 20h05 et au cours de la prochaine heure, on ira rencontrer la mairesse de Brossard, Mme Doreen Assad. Plusieurs questions qui concernent la Rive-Sud, qui est devenue, comme elle le dit si bien elle-même, le centre-ville de la Rive-Sud, Brossard. Alors, beaucoup de commerce, il y a eu un boom incroyable dans les 10 dernières années. Là, évidemment, transport en commun, population aussi diverse, multiculturelle. Et on va parler de tout ça, l'avenir, le présent, avec la mairesse de Brossard dans les prochaines minutes. Aussi avec nous, c'est une de nos bonnes nouvelles, une des belles initiatives que nous voulions souligner à l'émission ce soir. Une des entreprises dont le travail a été souligné par le premier ministre François Legault aujourd'hui lors de son point de presse quotidien, c'est-à-dire la compagnie Sam Wilson, une entreprise montréalaise en fabrication de vêtements pour hommes qui, là, a décidé de se mettre à fabriquer des blouses médicales notamment. Donc, on entendra le vice-président de l'entreprise. À l'instant même, c'est un plaisir pour nous d'accueillir un autre spécialiste, une personne qui a beaucoup de savoir à partager avec nous, les gens qui sont assez curieux pour vouloir en apprendre davantage sur la recherche actuelle. Et notre invité est professeur de virologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il étudie les questions de virus depuis une vingtaine d'années et, fait particulier, il étudie particulièrement les formes de coronavirus depuis les 6 ou 7 dernières années. Cet homme est M. Levon Abrahamian. M. Abrahamian, bonsoir.
Bonsoir.
J'espère que j'ai bien prononcé.
Oui, ça va.
Ça va. Ben, merci d'accepter notre invitation, M. Abrahamian. Je suis très, très curieux de tout ce que vous avez pu fouiller, tout trouver à travers vos recherches, vos études des dernières années. Qu'est-ce que vos études, justement, vous ont appris sur les coronavirus?
J'étudie le coronavirus, comme vous l'avez déjà dit, pendant les dernières 6 ans. Et donc, j'étudie tous les cycles viraux, c'est-à-dire tous les phases des cycles viraux, des attachements, de l'entrée de ce virus dans les cellules, la multiplication, etc., interaction virus-hôte, etc.
Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que tous les coronavirus se ressemblent? Et qu'est-ce que vous savez qui distingue la COVID-19 des autres formes de coronavirus?
Excellente question. Ce n'est pas le premier coronavirus qui nous connaît. C'est la troisième infection pour coronavirus. Les premiers coronavirus qui touchaient notre humanité étaient le coronavirus SARS.
SARS, oui.
Oui. En effet, il s'agit de la troisième épidémie de coronavirus au cours des 20 dernières années, ainsi que nous savons déjà quelque chose sur ces virus et certaines des mesures et même des stratégies de traitement sont basées sur cette expérience antérieure. La deuxième épidémie était en 2012, un virus similaire qui était encore un coronavirus d'origine animale, c'est-à-dire des chauves-souris.
Est-ce que c'était la H1N1, ça, en 2012 déjà? Non,
c'est un coronavirus qui appelle MERS. C'est un virus, coronavirus, des Moyen-Orient.
OK, du Moyen-Orient.
Moyen-Orient, oui.
OK, très bien. Et vous, donc, vous étudiez les questions de virus depuis longtemps et vous pensez que le gouvernement, parce que on a lu l'article, c'est dans la presse ce matin où on parlait de la réouverture des écoles et vous étiez cité dans l'article où vous pensez que le gouvernement devrait être prudent avant d'autoriser le déconfinement. Qu'est-ce qui explique, sur quels arguments, qu'est-ce qu'on devrait surveiller particulièrement avant d'autoriser le déconfinement?
Oui, je pense que tout le monde voudrait retourner à la vie normale, je comprends ça, et je comprends que le gouvernement fait tous les efforts pour que cela soit possible rapidement. Je valore vraiment ça. Je crois aussi que la situation épidémiologique actuelle, surtout au Québec, ne nous donne pas assez de confiance pour faire bonne prévision maintenant, ce qui passera au début de mai, mais je pense que le gouvernement devrait réévaluer la situation d'ici à la fin de la semaine prochaine et si nécessaire, ajuster les mesures des stratégies de lutte contre l'épidémie. Et encore, c'est bonne stratégie, commencer à changer notre vie graduellement et retourner à la vie normale. C'est correct. Mais je pense que nous allons peut-être, nous allons avoir quelques nouvelles dates sur sur les caractéristiques des développements de la courbe d'épidémie.
Donc, les statistiques actuelles ne vous rassurent pas, si je comprends bien, professeur Abraham Niam. Là, les statistiques, la courbe, même si on l'a aplanie, vous pensez que c'est pas assez convaincant pour procéder immédiatement au déconfinement?
Mais le gouvernement ne parle pas d'un changement immédiatement. Il parle de un processus graduel.
Oui, vous avez raison.
Au midi de mai. Peut-être c'est important de parler un peu de ce quoi c'est l'immunité collective pour comprendre pourquoi c'est important ou comment ça applique.
Croyez-vous à l'immunité collective chez les enfants, par exemple, dans les écoles?
Heureusement, ce virus, nous n'avons pas, ce n'est pas un virus dangereux pour les enfants. Heureusement, nous n'avons pas de décès parmi les personnes de moins de 30 ans. Et très peu des enfants ont été trouvés parmi les cas confirmés. J'ai calculé, donc environ 3% seulement. Et environ 190 000 tests ont été réalisés, ce qui signifie que seulement 12% des populations totales ont été testées. Et donc, le risque n'est pas pour les enfants. Ma préoccupation ne concerne pas les enfants, à l'exception des enfants qui ont des problèmes chroniques ou des systèmes immunitaires affaiblis. Les risques pour les populations des adultes et des personnes âgées, que nous savons ça.
Oui.
Et donc, si on parle l'immunité collective ou communautaire,
oui.
Encore, c'est un concept important en épidémiologie et peut être une bonne stratégie pour contrôler la propagation virale. Et en bref, ce concept est basé sur une supposition simple que lorsque certains pourcentages de la population est résistant à l'infection en raison de la résistance naturelle ou de l'immunité acquise, c'est-à-dire après une infection, le reste de la population est protégé contre l'infection, car le virus ne trouve pas assez hôtes sensibles, autres personnes sensibles à infecter, et sa transmission, est rare ou devient nulle.
Il a du mal à se propager tout à coup, le virus, dans de telles circonstances.
Oui, exactement.
Si on a l'immunité, si on réussit à établir un certain pourcentage d'immunité.
Oui. Mais maintenant, nous devons parler des pourcentages. C'est quoi le pourcentage de la population dont nous avons besoin pour être résistante à un virus particulier? Et c'est différent pour différents virus, ce pourcentage. Et cela dépend de la capacité de transmission du virus. Pour un virus à taux de transmission élevé ou contagiosité élevé comme la rougeole, par exemple, la population humaine devrait avoir environ 90% de personnes résistantes au virus, c'est-à-dire vaccinées ou avoir une résistance naturelle à la rougeole. Pour la première épidémie de coronavirus, le SARS-1 2002-2003, il a été estimé que la proportion de la population résistante devrait être comprise entre 50 et 80%.
Okay.
Donc, nous n'avons pas le nombre exact maintenant. Pourquoi? Parce que ces épidémies ont été stoppées grâce à des mesures internationales rapides de contrôle de la propagation. Par conséquent, les humains ont acquis les immunités collectives contre SRAS et nous ne savons pas clairement de quel niveau d'immunité communautaire nous avons besoin pour protéger notre population contre le SRAS.
Mm-hmm. Ça demeure une question. Oui. Ça demeure une question entière, le pourcentage. Avez-vous une conclusion?
Je peux simplement proposer que le niveau de contagiosité du coronavirus actuel, du SRAS 2, c'est toujours en discussion, mais je pense qu'il est probablement similaire ou même supérieur au niveau de contagiosité du premier virus du SRAS. Par conséquent, nous pourrions avoir besoin d'environ 50% à moins, 50% à 80% de personnes résistantes au virus afin de stopper la transmission et de protéger les groupes vulnérables et à risque, qui sont ces personnes à haut risque, les personnes âgées, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit leur âge, les personnes qui reçoivent le traitement anticancéreux, les personnes dont le système immunitaire est faible, pourraient facilement faire de milliers de personnes.
Est-ce que vous pensez que de rouvrir graduellement les écoles en temps et lieu, au bon moment, peut-être de permettre, tout en respectant des mesures de distanciation, là, il y a les camps de jour également pendant la saison estivale. Les villes se demandent s'ils vont annuler les camps de jour. C'était un peu comme l'école, mais pendant la saison estivale. Mais pensez-vous que ce sont des bonnes stratégies pour atteindre un 50% d'immunité?
C'est mon but d'avoir ce pourcentage d'immunité communautaire, mais le problème est que maintenant, nous n'avons pas les données sur le QL maintenant, le niveau, le taux d'immunité communautaire maintenant dans notre population. Et je pense que nous devons utiliser les deux stratégies. Oui, retour à les écoles en forme graduelle, etc., etc. Mais aussi, c'est important de préserver et utiliser le distanciement social. Parce que le distanciement social, c'est une stratégie importante et très utile.
Continuez de l'appliquer. Bien, oui. Professeur Abraham Yann, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.
Avec plaisir, oui.
Et bonne chance dans vos autres études et recherches, bien sûr, par rapport à la COVID-19 particulièrement. Merci.
Merci, bonne soirée.
Au revoir et bonne soirée à vous. Levon Abraham Yann, professeur de virologie à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.